Bonjour à toutes et à tous, curieuses, curieux, bienvenue sur le plateau de l'Onde Curieuse, le magazine d'infos de Fréquence 7. On reçoit aujourd'hui en studio deux personnes qui œuvrent au tourisme en Ardèche et plus particulièrement en Sud-Ardèche. Marc Avzard, qui est responsable du développement du tourisme à l'ADT, si je ne me trompe pas, l'agence du développement du tourisme.
C'est ça, développement, enfin observation ingénierie, puisque la question du développement, c'est un sujet, je ne sais pas s'il faut utiliser uniquement le terme développement.
Ouais. D'accord. Et Anne-Sophie Latour, qui est directrice de l'Office du tourisme Cévennes d'Ardèche. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Une première rencontre donc, qui nous permettra de connaître les orientations du département pour le tourisme cette année, de comprendre les nouveaux enjeux et défis pour un tourisme viable, voir comment on réinvente le tourisme en Ardèche. Mais avant cet entretien avec nos invités, place au Flash Info et aux actualités culturelles de cette semaine avec Quentin et Sylvain derrière les manettes. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et oui, bonjour, bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Je voulais ouvrir ce petit journal avec un trio d'informations qui m'a... C'était une avalanche de nouvelles ce matin sur mon fil d'actualité. Ça me semblait de première importance. Alors, c'est pas très très joyeux, mais c'est quand même intense. D'abord, j'ai appris que l'Observatoire européen du climat signalait que la banquise en Antarctique, donc au pôle sud, a atteint un nouveau record historique à la baisse pour ce mois de janvier. Donc, c'est l'été dans l'hémisphère sud. On note que l'englacement du pôle sud est inférieur de 31% à la moyenne des mois de janvier. C'est un record plutôt triste et qui n'augurerait rien de bon, puisque la banquise joue un rôle de régulateur de température sur la planète. La glace réfléchit une bonne partie des rayonnements solaires. Plus de glace, on absorbe plus de chaleur. Voilà.
Pardon.
Non, c'est ça. J'ai un deuxième record chouette dans la série des grands chiffres.
C'est ça, dans la série des grands chiffres. Et pendant ce temps-là,
chez Total Energy, on enregistre plus de 19 milliards d'euros de bénéfices en 2022. C'est un chiffre faramineux avec un nombre de zéros qui est renversant. Ça choque la population, ça choque un peu dans toutes les couches de la population, d'ailleurs, à juste titre, puisque les super profits ne sont pas taxés et que le groupe de députés socialistes qui planchait depuis plusieurs semaines sur un projet de loi sur la taxation des super-profits a annoncé hier qu'ils renonçaient à présenter leur projet de loi par peur que ça ne passe pas. Comme le gouvernement cherche 12 milliards d'euros pour financer les retraites, comme le prix du gasoil à la pompe continue d'augmenter, on se dit que quand même on pourrait songer à demander à Total de contribuer un peu au bien-être collectif. Alors il paraît qu'il contribue au bien-être collectif, c'est le sujet de la troisième information. Total s'est joyeusement approprié les communications du GIEC, donc le groupement international d'experts sur le climat, pour justifier la poursuite de la recherche et des investissements dans les hydrocarbures et les énergies fossiles. Et donc ce matin, les experts du GIEC ont annoncé publiquement qu'ils étaient horrifiés de voir que Total instrumentalisait et détournait leurs travaux. C'est un nouvel exemple de greenwashing du géant pétrolier qui est dénoncé donc par le GIEC. Dénoncé aussi ce mois-ci, alors Total s'en prend plein la figure et plein les poches. C'est Cache Investigation, l'émission de France 2 dirigée par Élise Lucet, qui s'est intéressée au greenwashing, à la soi-disant finance verte promue notamment par Total, par la BNP. Vous pouvez le trouver sur le site de France 2.
Comment faire la transition? Il n'y en a pas. Pas du tout. Tu semblais, c'est vrai que ce sont trois informations qui, mises bout à bout, montrent quand même une certaine folie du monde.
Bon. Moi, c'est pas grave, j'y tenais. Voilà, je me disais que. Allez, on a des nouvelles plus joyeuses.
La semaine prochaine, le vaisseau mère co-anime avec le Palabre un stage de création de site internet à destination des responsables d'associations du bassin d'Aubenas. Ce sont deux nanas qui mettent en place ça et c'est assez chouette donc pour les associations qui veulent créer un site internet. Ça se passe du 13 au 16 février de 9h30 à 11h30 au Palabre à Aubenas. La formation est gratuite, elle est limitée à 8 personnes et c'est sur inscription. En ligne, vous pouvez aussi aller avoir les infos auprès d'Avril Amodeo au 07 68 75 09 91.
Le CIVAM d'Ardèche recrute un ou une animateur, animatrice de projet pour un contrat de 6 mois à 28 heures par semaine, reconductible. Le poste est à pourvoir en mars, il faut postuler avant le 16 février. L'idée, alors au niveau des diplômes requis, ils demandent une formation Bac plus 3 avec 6 mois d'expérience dans l'animation et dans la coordination de projet, et ou être titulaire d'un BAFA ou d'une expérience significative dans l'éducation ou l'animation.
Toutes les infos par mail auprès de Alicia, A-L-I-C-I-A,
@civamardèche.org. Et c'est des missions qui s'annoncent assez intéressantes, puisqu'ils ont trois événements, trois directions prises par leurs événements cette saison. Il y a Envie de ferme, c'est des interventions éducatives des fermes ardéchoises auprès de la population. Il y a le fameux événement de ferme en ferme où pendant tout un week-end, les exploitations agricoles et maraîchères sont ouvertes au public. Et un projet de collectif en non-mixité choisi qui s'appelle Frangine 07. Écoutez, on vous en reparlera dès qu'on aura des informations.
Ensuite, ce soir à Asperjoc, qu'est-ce qui se passe ?
Ah oui, ce soir, c'est le Moulinard, l'association musicienne d'Asperjoc, qui convie les musiciens de tous bords avec son grand bœuf musical mensuel. C'est chaque deuxième jeudi du mois. C'est jamais facile de retenir ça. Chaque deuxième jeudi de chaque mois, rendez-vous de 20h à 1h avec vos instruments. C'est réservé aux adhérents, donc pensez à prendre quelques bols pour cotiser à l'association.
Sinon, ce soir, toujours à Aubenas, dans le cadre des Escales Patrimoine, le cinéma Le Navire propose à 18h la projection de la comédie culte To Be or Not To Be d'Ernest Lubitsch de 1942. Et la séance sera suivie d'un échange animé par la Maison de l'Image pour parler justement de ce chef-d'œuvre de 1942.
Et tant qu'on est dans les sauts dans le temps et dans l'histoire, tu nous emmènes plus loin au XVIIe siècle.
Au XVIIe siècle, oui. Avec la diffusion ce soir au cinéma des Quinconces à Vals-les-Bains du Roi Lear, le chef-d'œuvre de Shakespeare fait son entrée au répertoire de la comédie française dans la mise en scène audacieuse de Thomas Ostermeyer et sera retransmis donc pour sa première, donc la première a lieu ce soir, sera retransmis en direct à 20h10 au Quinconce de Vals-les-Bains. Le tarif c'est de 20 à 8 euros et on peut aussi en profiter pour réfléchir à la folie du monde, décidément.
La folie joyeuse du monde, on vous la propose ce week-end à Barnas, puisque samedi, l'association des Barnassous organise sa grande chandeleur, donc le 11 février, dans la salle des fêtes du village. Ils invitent les petits et les grands à partager un moment intergénérationnel et convivial avec jeux de société, jeux de cartes, tout en mangeant des crêpes vendues à la buvette au profit de l'asso. Ils vous proposent aussi de vous déguiser à partir de 15h, et de les rejoindre pour continuer l'après-midi. Donc ça va être la fête dans les gorges, enfin dans la montagne.
Ça va être la fête dans la montagne, ouais. On prend de la hauteur aussi ce week-end, les 10 et 11, donc vendredi et samedi, avec l'association Claire d'Étoile et Brin de Jardin, qui vous invite à des soirées astronomie dans la cour d'école de Chassier. Alors le vendredi, donc demain, c'est de 18h30 à 21h, 21h30, une visite guidée du ciel à l'œil nu et au télescope, d'Orion à Pégase, du Taureau à Andromède, une promenade dans le ciel d'hiver à ne pas manquer. Et le samedi, Marilyn Bardou présentera une conférence sur la pollution lumineuse à 19h30 à la salle des fêtes de Chassier. Plus d'infos, 07 83 79 07 68, mais ces soirées sont toujours excellentes.
Un peu plus loin d'ici, c'est au Teil que ce week-end, c'est la 7e édition des Hivernales du Théâtre Amateur. C'est organisé par l'association Les Pièces Montées. Vous pouvez y trouver 5 spectacles présentés par des compagnies de Grenoble, d'Avignon et bien sûr du Teil. Ça se passe donc de vendredi à 15h jusqu'à dimanche fin d'après-midi à la salle des fêtes Paul Avon au Teil. 7 euros l'entrée, une buvette et un buffet sur place.
Oui, alors que la contestation contre la réforme des retraites mobilise beaucoup de monde, mais que les appels à la grève ne prennent pas d'ampleur, des collectifs de travailleuses, des travailleuses et travailleuses organisent leur caisse de solidarité.
Et oui, c'est donc deux belles initiatives qui me réchauffent un peu le cœur, là, après c'est les premières nouvelles terribles. Moi je pense qu'en fait c'est très intéressant, la grève c'est quand même un outil phare pour faire entendre des revendications, hein, on a tendance à l'oublier. J'appellerais volontiers à la grève générale illimitée, mais on n'en est pas encore là.
Donc samedi 11, après les manifestations à Alès. Vous êtes invité à la projection du documentaire La Sociale de Gilles Perret. Excellent documentaire sur l'histoire, toute l'histoire de la sécurité sociale. Ça permet de remettre un petit peu en perspective hein, tout ça. C'est au cinéma de Barjac à 21h. L'entrée est à prix libre. Il y a la projection évidemment, puis la discussion, et tous les bénéfices de la soirée alimentent donc une caisse de grève.
Voilà, c'était là que je voulais en venir. Caisse de grève auto-organisée, c'est quand même génial. La même chose se passe dimanche 12 à Valgorge. Deux projections de films populaires et engagés pour financer une caisse de grève, notamment pour les employés de l'épicerie et du fournil de Rocle. Les films... Ah putain, je les ai pas notés. Et ben... Ah si, il y a un film sur Louise Michel à 20h, et la première partie c'est un documentaire sur la grève générale.
Ouais.
Rendez-vous à Valgorge, donc à la salle de la Pourrette, dimanche fin d'après-midi.
On continue en musique.
C'était Stuck in the Middle with You, une reprise... Ah, pardon. C'était une reprise des Steeler's Wheel par le duo californien Pamplemousse. Du coup, ils sont très mignons. Lui, il est arrangeur multi-instrumentiste. Elle a sa petite voix avec un sourire à l'intérieur. C'est un morceau qui est utilisé dans la bande originale de Reservoir Dogs, pour les cinéphiles.
Oui. Merci, Quentin. Eh ben, on passe maintenant au sujet du jour là, qui va nous tenir pendant une quinzaine de minutes, une vingtaine de minutes, avec Marc Avzard, donc, qui est...
Eh ben, je travaille à l'Agence Développement Touristique, qui est l'agence qui dépend assez directement du département de l'Ardèche, qui fait la promotion du tourisme en Ardèche et au-delà. Voilà. Je suis responsable de l'observation, de l'ingénierie et du développement.
D'accord. Observation, ingénierie et développement. Merci. Et Anne-Sophie Latour.
Oui, je suis directrice de l'Office de tourisme Cévennes d'Ardèche, donc qui intervient sur le sud-ouest du département, au Pays des Vents sans Cévennes et Pays Baume-Droubie pour mon territoire administratif.
Alors, du coup, Marc, bienvenue. Vous êtes en train de plancher au niveau du département sur une nouvelle approche du tourisme pour les années qui viennent. Il y a un plan 2023-2027 qui est encore en cours d'élaboration.
Voilà, c'est un plan qui est en cours de réflexion. On est en train de s'interroger sur... Alors le tourisme, c'est un mix entre des politiques publiques et des acteurs privés. Hein. C'est vraiment des choses très imbriquées. Donc l'Agence Développement Touristique... Petit accident de micro. Donc l'Agence Développement Touristique est en train de réfléchir au nouveau plan tourisme en lien avec tous les acteurs, qu'ils soient publics et privés. Alors peut-être pour resituer quand même, je ne vais pas vous accabler de chiffres, mais pour resituer l'importance du tourisme
en Ardèche. Oui. Ouais, exactement.
Alors, on a tous en tête, c'est une activité importante hein, pour un département rural comme l'Ardèche. Juste quelques chiffres. On a à peu près 9000 personnes qui travaillent très directement dans le tourisme. Ça représente à peu près un peu plus de 8% des emplois en Ardèche. Alors ça, c'est vraiment les gens qui travaillent très directement dans le tourisme. Mais après, il y a tous les effets induits du tourisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent du tourisme de manière plus indirecte. Alors je pense à tous les services, je pense à tous les commerces. Alors un chiffre là aussi, ça c'est une enquête qui avait été conduite par la Chambre de commerce, je crois qu'il date de 2019. Si on prend l'ensemble des commerces en Ardèche, 19% de leur activité dépendent de l'activité touristique, c'est-à-dire des gens qui viennent en Ardèche et qui viennent dépenser, consommer en Ardèche. Donc ça, voilà, ça donne une idée du poids. Traditionnellement, on parle en nuitées touristiques. Alors, on a 15 millions de nuitées touristiques en Ardèche. Une nuitée, c'est une personne qui vient dormir en Ardèche. Alors, ça vous évoque peut-être pas grand-chose, mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a, sur les grands week-ends, par exemple, de printemps, on a 100 000 personnes, donc qui ne sont pas des résidents, qui ne sont pas des Ardéchois, qui sont en Ardèche et qui dorment en Ardèche. Dans le courant du mois d'août, on est plus à 150 000 personnes. Des touristes qui viennent dormir en Ardèche. Voilà, ça situe à peu près l'importance. Et dernier chiffre, globalement, on dit c'est 12% de l'activité en Ardèche. Voilà, 12% dépend directement du tourisme.
12% des bénéfices générés sur le territoire.
Ce 12%, c'est ce qui est produit en Ardèche. La richesse produite en Ardèche, le PIB, voilà, c'est 12% dépend directement du tourisme.
D'accord, c'est le deuxième secteur d'activité après l'agriculture.
Alors, je ne sais pas s'il faut faire des classements, mais là, c'est un bon exemple aussi. On a une imbrication entre le tourisme et l'agriculture. Voilà, c'est aussi des secteurs qui ont à travailler ensemble, qui dépendent l'un de l'autre. Hein. Les productions agricoles de qualité en Ardèche, elles font l'image de l'Ardèche. Et puis à l'inverse, les agriculteurs aussi, les touristes qui viennent en Ardèche, pour eux, c'est des débouchés. Pour vendre leurs produits. Voilà. Donc c'est un des exemples de l'interaction qu'on a et des effets positifs du tourisme.
C'est ça qui est intéressant, effectivement. C'est l'imbrication. Il n'y a pas, comme je viens de le suggérer, vraiment de séparation entre tous les secteurs d'activité. Et d'ailleurs, Anne-Sophie Latour, en préparant cette émission, vous nous disiez que, 12%, en fait... C'est probablement plus parce que...
Déjà, 12%, c'est à l'échelle de l'Ardèche. Et du coup, c'est vrai que plus on se descend dans le sud, où il y a une concentration un peu plus importante d'offres touristiques, ce chiffre augmente. Et puis, effectivement, comment on isole complètement l'activité touristique du reste de l'activité quand est-ce que nous sommes à Ardéchois des touristes aussi, sur notre département, dans notre mode de consommation. Et puis, voilà, nous, on a mené un gros travail avec les producteurs de notre territoire. Alors, sur des filières emblématiques comme la châtaigne, Bretagne, mais pas que. Et c'est vrai que voilà, les retours que l'on a, c'est que le chiffre d'affaires, enfin leur chiffre d'affaires est massivement réalisé pendant la période touristique, qui est liée aux résidences secondaires autant qu'à des gens, qui des vacanciers qui viennent sur de l'hébergement marchand. Mais effectivement, on a du mal aujourd'hui à arriver à mettre tout ça dans une case et à se dire que les effets ne sont pas généraux, mais même chez des artisans qui travaillent pour des résidences secondaires, des hébergements et ainsi de suite. Donc voilà, ces chiffres, ils sont toujours, ils nous posent toujours question et on a toujours un peu du mal à se dire, bon ben voilà, effectivement, le tourisme en général, ça pèse pour tant de pourcents sur notre activité globale, c'est difficile quoi.
Et c'est une activité du coup, enfin c'est des revenus et une présence de personnes sur le territoire. On sait qu'il y a tous un pic énorme entre la mi-juillet et la mi-août, mais du coup est-ce que c'est une activité qui est un peu répartie sur l'ensemble de l'année? Est-ce que on arrive à faire venir des gens un peu toute l'année en Ardèche autour de différentes activités?
Alors effectivement, bah, par définition le tourisme il est souvent saisonnier puisqu'il est lié à un calendrier de vacances, il est lié aussi à la météo, donc oui. C'est très important, le tourisme en été. Mais tout le rôle des acteurs publics, c'est de faire en sorte que la saison touristique soit la plus diffuse sur le territoire et la plus étalée dans le temps. Donc pour nous, acteurs publics, le tourisme de printemps et le tourisme de l'automne en particulier, c'est des sujets qui sont très importants. Alors l'été est important, bien sûr, parce que l'été, c'est le socle économique pour pas mal d'acteurs. Mais ce tourisme de printemps, ce tourisme d'automne, il est particulièrement important. Donc, voilà, un chiffre aussi, c'est 44% la fréquentation touristique sur les mois de juillet-août. Donc c'est effectivement concentré. Mais il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses aussi au printemps et à l'automne.
Et juste pour compléter, on voit ces chiffres s'inverser au fil de l'eau aussi. Il y a un gros travail qui a été mené depuis plusieurs années par l'ADT et l'ensemble des acteurs pour ça, pour travailler les propositions printemps-automne. Et chaque année, on voit la part de l'été qui diminue au profit de ce qu'on appelle les ailes de saison. Donc voilà, on voit qu'il y a des vrais potentiels encore d'amélioration de ce côté-là et d'efforts, enfin de choses à mener collectivement pour irriguer encore mieux.
Tu m'avais lancé sur le plan tourisme. C'est pourquoi on fait du tourisme tous. L'intérêt du tourisme, c'est le tourisme a un intérêt si il a un impact positif sur le territoire, sur les résidents, sur les entreprises bien sûr qui en vivent, mais sur le résident. Le premier axe. La première ambition de ce futur plan tourisme qu'on est en train de construire, c'est de se poser la question, à chaque fois qu'on mène des actions, est-ce que ça a des retombées positives pour le territoire et en particulier pour les résidents à l'année. Et ces retombées, elles se mesurent bien évidemment en termes de retombées économiques, en termes d'emploi, mais elles se mesurent aussi en termes de qu'est-ce qui permet de maintenir des services, est-ce que le tourisme permet d'entretenir du patrimoine, est-ce qu'il permet de réaliser des infrastructures qui vont bénéficier à tous les résidents tout le long de l'année. Ça, c'est un des indicateurs qui permettent de mesurer une bonne politique touristique.
Parce que ça, effectivement, c'est une vraie question que soulevait un petit peu Quentin, c'est-à-dire c'est sur la saisonnalité. C'est-à-dire que oui, maintenir effectivement des services, parce que tu parles de services du coup qui sont proposés aussi pour les habitants, mais faut-il encore que ces services restent ouverts, disponibles, accessibles pendant toute l'année?
C'est une vraie question. Un des bons exemples, mais je peux passer la parole à Anne-Sophie, c'est les bistrots de pays. Ouais. Les bistrots de pays, typiquement, c'est des activités qui bénéficient à la fois aux touristes et puis aux résidents. L'idée, c'est d'avoir une vie à l'année avec un bistrot qui va être un lieu de vie toute l'année. Donc Anne-Sophie en a sur son territoire. C'est un des axes qui est travaillé, faire en sorte de déployer ce label. Et voilà, c'est un des exemples de comment le tourisme peut permettre de maintenir cette activité à l'année.
D'ailleurs, sous l'appellation bistrot de pays, c'est un prérequis, il faut qu'il soit ouvert à l'année, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire qu'il soit ouvert. Alors, il a le droit de prendre des vacances, hein. Mais c'est pas une ouverture saisonnière, c'est une ouverture à l'année, et puis qu'il est une activité aussi de service, et il a souvent une activité de service à la population.
Et puis il y a beaucoup de structures, enfin, comme les bistrots de pays ou d'autres activités, les associations aussi par exemple, qui font des événements sur l'été, pendant la période haute touristique, et qui leur permet aussi d'avoir un socle suffisant pour pouvoir proposer d'autres choses tout le reste de l'année, justement pour les habitants. Donc il y a aussi cet aspect-là qu'on a du mal parfois à mesurer, c'est de se dire, voilà, si j'avais pas l'été, est-ce que je pourrais tourner l'hiver? Et ça, c'est une réalité aujourd'hui sur nos territoires.
C'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant à essayer d'étaler, parce que du coup, Marc, vous avez un terme, c'est que ça soit une activité diffuse, et c'est vrai qu'on a quand même tendance à observer un pic. Alors vous aimez pas trop le mot de surfréquentation, mais moi j'ai l'impression que le Sud-Ardèche sature entre juillet et août, mais que peut-être si on arrivait à étaler un peu plus la pratique touristique sur une période de 6, 7, 8 mois, non seulement ça permet d'avoir des emplois qui sont un peu plus pérennes que des simples emplois saisonniers de 2-3 mois, ça permet à ces assos justement, et les salles de spectacle et les lieux de restauration, d'avoir une activité un peu plus diffuse aussi, un peu plus régulière sur l'année. C'est vraiment dans les axes de recherche du département ?
Alors, clairement, encore une fois, c'est une activité saisonnière. Encore une fois, le Sud est très prégnant sur l'activité touristique. Après, c'est lié à quoi ? On a des totems touristiques en Ardèche. Le pont d'Arc, c'est un totem touristique. Chauvet, la grotte Chauvet, est devenue aujourd'hui un totem touristique qui a amené la lumière, la notoriété, l'image pour le département. Et c'est vrai que... voilà. Et on a besoin de ces totems. On a besoin, ne serait-ce que pour renouveler aussi la fréquentation des gens qui viennent. Ça, c'est un phénomène qu'on observe. Les gens, beaucoup de touristes vont découvrir, lorsqu'ils viennent la première fois, ils vont découvrir l'Ardèche par les gorges de l'Ardèche. Ils vont descendre les gorges de l'Ardèche, ils vont visiter Chauvet. Après, il faut en faire des gens qui deviennent des fidèles de la déciation, qui vont revenir, pas forcément l'année d'après, mais qui vont revenir 2 ans ou 3 ans après, et ils vont revenir sur d'autres endroits du territoire. Voilà, c'est un des leviers qu'on essaie de travailler.
Et c'est un des enjeux, du coup, de profiter de ces totems-là pour travailler le reste. Aujourd'hui, l'Ardèche s'est faite aussi grâce à ces totems, grâce à notre climat, à la rivière. Notre tourisme s'est construit un petit peu comme ça au fil de l'eau.
Sport de nature.
Sport de nature. Et voilà, aujourd'hui, c'est comment on agit collectivement pour amener des choses différentes, pour sortir de ces totems faire revenir les gens, puisque les touristes ardéchois sont fidèles. Donc, les faire revenir sur des choses plus intégrées, différentes en fait, et faire d'autres propositions pour construire l'avenir.
Alors justement, comment vous faites, puisque c'était la question un petit peu de départ, comment on réinvente ce tourisme ? Je sais qu'on a entrepris, là on a glissé vers d'autres sujets, mais tu commençais, Marc, à nous présenter un petit peu les différentes ambitions. Donc tu parlais d'un tourisme qui soit accepté, perçu comme positif par les habitants. On a vu que effectivement c'est beaucoup plus subtil qu'une répartition, voilà ce qui se passe en été et voilà ce qui se passe le reste de l'année, que tout ça circule, que quelquefois évidemment c'est parce qu'il se passe des choses en été que les habitants, les associations, les commerces peuvent maintenir un service aussi l'hiver ou dans les ailes de saison. Une deuxième orientation majeur, c'est notamment un tourisme alors qui dit mesurer et maîtriser son impact environnemental. Et là, on y vient parce que c'est vraiment un défi et un enjeu majeur. On est tous conscients de ce qu'il va falloir s'adapter. On est sur un tourisme, notamment un tourisme vert lié à la rivière. On va se poser aussi la question de l'eau. Comment on fait justement pour réorienter les touristes qui sont venus pour un tourisme vert vers des pratiques différentes de la simple descente, soit des gorges, soit du chasse-zac, enfin.
Je crois qu'aujourd'hui, ces questions, elles ne sont pas liées à l'Ardèche et au Sud-Ardèche. C'est des questions sociétales, clairement.
Bien sûr.
Et malheureusement, on n'a pas aujourd'hui de recette toute faite pour se dire, tiens, comment on va justement résoudre ces problématiques liées à l'eau, au partage de l'eau, au partage de tous les usages de toute façon, au partage de la nature de façon globale. La préservation et la durabilité, la quête de sens est une tendance de fond de notre société et des comportements dans notre quotidien, mais dans notre comportement en temps en vacances également. Donc voilà, comment on invente ça aujourd'hui, c'est des vraies questions qui nous animent tous. Le plan tourisme travaille dans ce sens, enfin, à l'échelle du département, mais on travaille tous dans nos structures ou à nos échelles de micro-destination ou dans les structures avec l'ensemble des professionnels pour se dire, on arrive à un modèle qu'il faut réinventer. Il faut réinventer nos offres, il faut inventer ce que nous racontons, il faut repenser la relation à l'habitant. Voilà, vous avez parlé de la notion de surfréquentation, c'est lié aussi à ce qu'on en perçoit, ce que chacun en perçoit et où est son niveau d'acceptabilité. Donc il y a aussi ce travail-là à mener avec les habitants pour que chaque euro investi dans un équipement touristique soit à destination des habitants en priorité et que tout le monde s'y retrouve aussi de ce côté-là en se disant j'ai des endroits qui sont vraiment à préserver, pas à mettre sous cloche parce qu'il y a ce piège-là aussi. Aujourd'hui, de se dire préservation de l'environnement, on pourrait vouloir mettre la nature sous cloche. C'est pas non plus une solution forcément idéale. Donc il y a toujours des curseurs à mettre et qu'est-ce qui est, où on les place justement collectivement, quoi.
Alors effectivement, la prise en compte, vous avez lancé l'émission comme ça d'ailleurs, sur les mauvaises nouvelles pour la planète, mais la prise en compte des enjeux climatiques, c'est vraiment un des aspects qui encadre aujourd'hui notre réflexion. L'année 2022 d'ailleurs a été assez emblématique pour le tourisme ardéchois. On était vraiment dans le paradoxe à la fois, et vous m'aviez posé la question, on a une très bonne saison touristique. Sur la simple mesure de la fréquentation touristique, c'est pratiquement une saison historique en termes de volume de fréquentation. Et en même temps, tout le monde, les Ardéchois l'ont vu et les touristes l'ont vu, on a été confrontés à des phénomènes de pénurie d'eau qui ont commencé très tôt, qui ont commencé dès le printemps, des phénomènes de canicule qui impactent aussi l'attractivité de la destination en été. C'est-à-dire que, mais ça, on l'a vu, on l'a clairement mesuré, c'est-à-dire qu'en été, faire du vélo, alors le vélo, un sujet... explosion du vélo, de plus en plus de gens font du vélo, mais sur l'été, en pleine journée, on va faire moins de vélo. Donc, on avait des épisodes d'incendie aussi qui ont inquiété les gens. Donc, tout ça, il faut vraiment le prendre en compte. On est à la fois dans des enjeux d'adaptation, parce qu'aujourd'hui, clairement, il y a des enjeux d'adaptation. Et comme le dit Anne-Sophie, c'est un problème sociétal. Nous, la question qui se pose, c'est les leviers. Au niveau du tourisme, c'est quoi nos leviers? On ne va pas régler tous les problèmes du climat, mais quels sont les leviers qu'on peut avoir?
Oui. Par exemple, vous concertez avec les... Moi, je repense à l'été dernier, j'avais vu un peu des tensions éclater entre les touristes et des agriculteurs, par exemple, puisque l'eau était devenue une thématique majeure. Vous, là, vous arrivez à faire se concerter différents champs d'activité ici, là, genre l'environnement, l'agriculture...
L'eau... le partage de l'eau, la conciliation des usages, c'est clairement un sujet d'avenir, mais même du présent, parce que le tourisme, un tourisme sans eau sur le département... Alors tout ne dépend pas de l'eau et de la rivière. Tout le monde ne vient pas faire du canoë. Mais c'est vrai que c'est pouvoir se baigner en lac, pouvoir se baigner en rivière, pouvoir descendre les gorges, c'est des choses très importantes. C'est aussi la question des piscines dans les hébergements. Donc ça, c'est vraiment un sujet. Alors comment ça se traite? Ça se traite idéalement par la concertation et la conciliation. Aujourd'hui, il y a des choses qui ont été mises en place et par l'État et par le département, donc on appelle les assises de l'eau, qui sont déclinées au niveau territorial. La solution, c'est de mettre autour de la table les gens qui ont besoin. L'agriculture, l'eau potable, évidemment, c'est des enjeux qui sont fondamentaux. Et le tourisme n'a pas tiré en disant, mais c'est moi d'abord, mais autour de la table, et c'est dans ces lieux-là qu'on discute de ces sujets-là. Et puis ça passe, de toute façon, ça passe par des économies. Une des actions qu'on a déjà entreprises, qu'on va retrouver dans le futur plan tourisme, nous, c'est un de nos rôles, c'est l'accompagnement des entreprises touristiques, les hébergeurs, les restaurateurs, pour avoir des pratiques plus vertueuses en matière de consommation d'eau, en matière de consommation d'énergie. Donc on a un programme qu'on a lancé avec l'ADEME, on le fait avec les partenaires, on trouve autour de la table le parc naturel régional, on trouve la chambre de commerce, on trouve des gens comme Goûter l'Ardèche, Ardèche-le-Goût, qui aide les professionnels du tourisme à s'approvisionner localement. On accompagne ces entreprises pour identifier leurs pistes de progrès, les investissements qu'ils ont à faire.
D'accord. Ça, c'est quelque chose de très concret.
Oui, j'en étais là. Et au niveau de, au niveau du pays des Cévennes ardéchoises, là, vous menez quoi comme concertation? Vous organisez des tables rondes avec avec différentes personnes. Vous essayez de sensibiliser à la fois le public et les acteurs du tourisme.
On sort d'un gros programme là de recherche action qui a duré 3 ans justement. Travaille avec l'université, un laboratoire universitaire pour s'interroger sur comment on prépare l'avenir et faire ce travail-là justement de concert avec l'ensemble des acteurs, des habitants, de mettre les habitants au cœur de ces dispositifs-là et de s'engager dans un processus de réflexion, de concertation, de co-construction. C'est un processus qui est long. Puisque ça demande déjà d'abord une appropriation, d'apprendre à se connaître, comme on dit, partage d'usage. Ça veut dire quels sont les objectifs des uns, enfin les enjeux de chacun. Donc ça, c'est quand même pas rien. On a souvent la mauvaise habitude de travailler un peu chacun dans notre coin. Donc ça veut dire que là, il faut qu'on apprenne déjà à se comprendre, à travailler ensemble et d'abord à se comprendre.
Parler un langage commun.
Exactement. C'est la première étape à franchir. Après, une fois qu'on a réussi à poser un certain nombre d'éléments clés de ce côté-là. L'idée, c'est demain d'engager le territoire dans une vraie stratégie autour de ça pour préparer cet avenir, pour faire de la transition. Alors même si ce mot est un peu tarte à la crème par moment, je m'excuse, mais voilà, il n'en demeure pas moins que c'est la réalité. De se dire, on prépare l'avenir et on s'engage dans une transition pour notre territoire et pour nos habitants, nos professionnels et nos visiteurs. Les professionnels, ils sont sensibles, ils ont compris les enjeux. Je donnais l'exemple en préalable quand on a préparé l'émission d'initiatives qui sont lancées sur le chasse-zac, sur le canoë, où les loueurs de canoë avec les services de l'État et du département ont envie d'apporter des réponses concrètes à ces questions-là en limitant la fréquentation, et en accompagnant aussi encore plus les pratiquants à être respectueux de l'écosystème dans lequel ils se trouvent.
Donc ça c'est un exemple concret. Peut-être des quotas. Donc les loueurs de canoë eux-mêmes ont envie, sont demandeurs de limiter d'une certaine manière pour non pas avoir plus de fréquentation, mais une meilleure fréquentation.
Pas faire plus, mais faire mieux. Ça, je pense qu'aujourd'hui, il y a peu de professionnels qui n'est pas dans cette dynamique-là. Je pense que tout le monde a bien compris que les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Après, c'est des modèles économiques à trouver aussi, parce que clairement, les activités, les entreprises, elles sont là pour faire une économie. Donc c'est des modèles économiques à trouver. Et je pense que nous, en tant que structure aussi publique comme ça et faiseurs de liens, on a ce rôle-là de les accompagner vers ça.
Un dernier petit mot de Marc avant de conclure.
Un petit mot en guise de conclusion, c'est dire le tourisme pour les Ardéchois, c'est aussi être touriste dans son propre département. Et ça c'est un des sujets qu'on aura traité, mais on peut partir en vacances à côté de chez soi et on peut partir en vacances en Ardèche. Et le tourisme, c'est aussi pour les Ardéchois qui peuvent partir en vacances. Voilà.
Et donc voir comment on se comporte nous-mêmes en tourisme chez nous.
Voilà, et puis ça c'est une des grandes tendances, c'est-à-dire partir moins loin, moins vite. Peut-être plus longtemps, et donc les touristes, les Ardéchois doivent être touristes dans leur propre département.
Ouais. Exact.
Merci beaucoup. On pourrait en parler pendant des heures, malheureusement, c'est vrai qu'on a 20 minutes.
On reviendra.
Oui.
Oui, on compte sur vous, parce que moi j'ai noté un autre terme tarte à la crème, c'est demain, parce qu'en fait demain c'est vendredi, et en fait après 3 ans de concertation, je me dis que sans doute vous avez appris à vous connaître, et donc on se revoit demain.
Ou tout à l'heure.
Merci beaucoup Marc Avzard de l'ADT, merci beaucoup Anne-Sophie Latour de l'OT Cévennes d'Ardèche.
Alors la suite du programme d'aujourd'hui sur Fréquence 7, vous retrouverez à 13h Paroles de citoyennes et citoyens, à 15h le Telex, n'oubliez pas l'existence de cette boîte vocale libre et ouverte au 04 75 93 30 25, à 16h on rediffuse Paroles de citoyennes et citoyens, à 17h on rediffuse
L'onde curieuse.
Merci Sylvain,
merci
à toutes et à tous, belle journée.
Merci
à tous, à bientôt.